And now they're putting on these big numbers.
Like I said, if we go to him, we can't. Yeah.
Oui, Christian, ça va? On a un petit problème avec le dossier de PJ Orny, là. Tu sais pas où est-ce qu'il a été expédié? Oui, la dernière fois qu'on a entendu parler, elle était toujours à Athènes, ouais. Ouais, je vais faire passer le dossier en interne. Ouais, je crois qu'elle s'était perdue parce qu'elle arrive pas à expliquer comment son journal intime peut se lier à des savoirs situés d'une plus grande histoire. Genre, c'est quoi le lien entre son voyage de jeune lesbienne à Athènes et la relecture marxiste du Moyen-Âge de Silvia Federici, quoi. Mais oui, elle va trouver un moyen de se justifier. Enfin, on peut lui envoyer un rêve crypté, ça pourrait l'aider. Ok, je fais ça, je revois ça. Ah, attends, là, je crois qu'on l'a sur la caméra 509. Elle est encore dans un vernissage à Athènes. Oh là là, c'est pas vrai. Vas-y, je balance la caméra 509. Vas-y, salut Christian, ciao.
You make sound, boom.
Journal de PJ Orny, octobre 2019, Athènes. Le soir après le vernissage de la Californienne avec vin blanc, mec en costard qui joue de la harpe derrière un lustre en raisin de crustacés et drag show génial, on traîne dans les squats à Exarchia, le quartier anarchiste où les banques ont été fermées et les immeubles autogérés. Sa pilule d'adolescence qui danse sur de la pop trance. Le premier soir et le second soir, ce sont les trois derniers étages d'un immeuble qui sont décorés par des installations psychédéliques faites en canettes de bière dorée. Il y a une projection hallucinogène sur le mur de la construction d'en face, à côté d'un immense tag qui dit « Berlin is the new Athens ». La musique est pourrie, mais je retrouve l'allemande cool. Je lui demande si je peux la prendre en photo dans les toilettes et elle me demande d'enlever mon t-shirt et de poser dans la baignoire. Elle s'appelle Jules. Elle vient de Leipzig. Elle m'explique qu'en même temps, je crois que c'est un date. Je me réveille et c'est dimanche et on est passé à l'heure d'hiver, mais toujours dans un nuage, mais toujours pas un nuage à l'horizon. Not a fucking single cloud in 7 days, mon record personnel. Je dis adieu aux Belges et plan forain en photo avec ses tiacs sur le lit blanc avant de partir. Chope deux souvlaki pour la nuit et quitte la chaleur. Bizarrement, je ne suis ni énervée, ni stressée, ni dégoûtée. C'est un peu comme ça depuis le Mexique. Tout me passe au-dessus de la tête. Tant que la situation est assez stimulante pour m'empêcher de me replonger dans ce passé qui me prend trop de place dans la tête. En partant pour l'aéroport, j'entends dans la rue des cris d'une foule. C'est la fête nationale grecque. Celle qui célèbre le jour où les Grecs ont dit non à la dictature mussolinienne. Tous mes trajets ont donc été rythmés par des mouvements sociaux. Batterie en Bulgarie, dans une minute... Hein ? Escale en Bulgarie dans un minuscule aéroport dans lequel je dois passer la nuit. Je m'assois à la table d'un café très glauque. J'ai de la wifi et une prise. Je bosse jusqu'à 3 heures sur une table au motif safari zèbre, éclairée par les abat-jours Tour Eiffel qui me rappellent là où j'aurais dû tranquillement atterrir. J'ai l'impression d'être dans un Twin Peaks bulgare dans l'apocalypse post-capitaliste. 8h16, Charleroi, 3 degrés, Flixbus mon amour pour Bruxelles City. Son métro neuf et propre, ses panneaux qui brillent, ses passants chiants. Je suis accueillie par un collectif d'écoféministes qui s'appelle Moi les autres arts. Je suis à peine arrivée que je suis en train de les aider à monter un canapé dans les escaliers. Elles viennent d'emménager. Ce sont des amies de Guillaume. Elles m'accueillent tout sourire sur des chaises oranges et jaunes dans un salon encore vide. Elles sont sorties des Beaux-Arts d'Angers l'année dernière. J'ai l'impression d'avoir fait un terrain d'enquête sur les étudiants des Beaux-Arts de France, leurs pratiques et leurs habitats. Je rencontre Anastasia qui fait une thèse sur les pigeons à l'EHESS PTDR. Ce qui est fou, c'est que Lila, Cathy et Beth, ces filles qui m'accueillent une journée à Bruxelles, sont toutes parties en échange dans la même école que moi au Mexique. On se remémore nos touristas autour d'une fendue et je pars prendre un Flixbus mon amour pour Strasbourg à 22h. Sur la route noire, je repense à ce que m'a écrit la Gradiva vendredi, quand je lui ai envoyé une photo de la plage nudiste. Elle m'a redit pour la première fois depuis longtemps, LMY, love and miss you, en ajoutant qu'elle était rentrée en panique en pensant avoir perdu une boucle d'oreille que je lui avais laissée sur le lobe. J'ai raté mon date dans une taverne de poissons avec l'allemande. J'ai manqué une occasion de baiser, j'en ai rien à foutre, alors que ça m'aurait fait du bien. Je m'écroule sur le siège dur et me réveille 5 minutes avant le stop à Strasbourg. Et vraiment heureusement parce que le chauffeur n'a pas annoncé le stop, et sinon, je me serais réveillée à Bratislava. Bonsoir. Enfin, ici c'est le soir. C'est à nouveau Pidgey, mais un an plus tard. En ce moment, j'habite temporairement à Aubervilliers, dans l'appartement d'une artiste qui s'appelle Miss Chambritas. Allez voir ce qu'elle tricote sur Instagram, elle est trop forte. Je suis donc entourée de dizaines et de dizaines de pelotes de laine, ce qui n'empêche pas les murs très fins de faire passer les bruits qui émanent de chez les voisins. Je les entends du soir au matin. Les enfants crient, les ados chantent et les parents s'embrouillent. Hier au supermarché, il y avait un bruit trop bizarre. Je crois que je suis tombée sur un portail au rayon laitier. Autour de moi, c'est comme si personne m'entendait. Les gens prenaient leur yaourt sans le remarquer. Si quelqu'un sait ce que c'est ce son, écrivez-moi s'il vous plaît. Ici, je trouve enfin un espace dans lequel je peux me concentrer pour replonger dans le montage de ce deuxième épisode que j'avais fait il y a déjà un an. En essayant de me remettre une énième fois dans ce travail, je trouve que rien ne va. Les histoires que je raconte ne me paraissent plus à propos. C'est le rêve que j'ai fait cette nuit qui m'a aidé à trouver comment revenir dessus si longtemps après.
Mon amour, j'ai fait un rêve trop bizarre, genre méta, genre, on regardait un film et je devenais le personnage du film, mais j'incarnais plusieurs personnages, plusieurs points de vue, et à un moment on faisait pause et tu remettais en arrière et tu mettais une autre version du film. Du coup, moi, je réincarnais les autres personnages dans différents endroits. Et après, je revenais de l'autre côté de l'écran avec toi. Et on... Enfin, c'est trop bizarre. Quand on mettait sur pause, on était dans le même endroit que l'endroit où c'était filmé, ce qu'on regardait. Mais les personnages étaient sur pause. Et on allait manger un truc. C'était trop bizarre. Tout se confondait. Méta.
Taichi. Je repense à ce rêve qui me souffle une solution. Ma voix de narratrice va se dédoubler, racontant une autre histoire par-dessus la dernière, survolant les moments que je ne trouve plus importants sans pour autant les effacer. J'ajoute une seconde couche au récit. Un regard extérieur et plus jeune vient survoler ces vieilles histoires en les commentant. Entreprendre ce doublage m'est confirmé en ouvrant le livre que je lis en ce moment. Une toute première traduction en français du livre « Terre frontalière, la frontera » de Gloria Anzaldúa. Voici l'extrait sur lequel je tombe en rouvrant le livre. Quand je crée des histoires dans ma tête, c'est-à-dire quand je laisse les voix et les scènes se projeter sur l'écran de mon esprit, je transe. Longtemps, j'ai pensé que je devenais folle ou que j'avais des hallucinations. Mais je me rends compte maintenant que mon travail, ma vocation, est de me livrer au trafic d'images. Certaines de ces histoires aux allures de films, je les note. Pour faciliter mes films avec une bande-son, j'ai besoin d'être seule ou bien en isolation sensorielle. Mon corps vit les événements. Au début, c'est comme être au cinéma, simple spectatrice. Petit à petit, je Je suis si captivée par les activités et les conversations que je deviens partie prenante de l'action. Je dois lutter pour ne plus me dégager ou m'échapper de mon histoire animée. Je dois dormir un peu pour pouvoir écrire le lendemain. Or, me voilà absorbée par une histoire qui refuse de me lâcher. Hors champ, je suis réalisatrice, scénariste, cadreuse. Dans le champ, je suis les acteurs, hommes et femmes. Je suis le sable du désert, la montagne. Je suis le chien, le moustique. Mes rêves éveillés parlent de déplacement. Déplacement de la pensée, déplacement de la réalité, déplacement du genre. Une personne se métamorphose en quelqu'un d'autre dans un monde où les gens volent dans les airs, soignent des blessures mortelles. Je joue avec moi-même, avec l'âme du monde. Je suis le dialogue entre moi-même et el espíritu del mundo. Je me change moi-même, je change le monde. Bon, vous l'aurez compris, je cherche des auteuristes qui réécrivent la réalité de la grande histoire. Et pour cela, il faut souvent passer par la petite histoire, par la sienne. Caliban et la sorcière, le livre dont je parle tant dans l'épisode précédent, a pu être décrié par la critique, affirmant que les références historiques de l'autrice étaient inexactes. À cela, Clovis Maillet et Thomas Golsen répondent dans l'incipit de leur petit livre Un Moyen-Âge émancipateur, à la page 11. Le succès de Caliban et la sorcière ou le regain récent d'intérêt pour William Morris dans les milieux politiques féministes, autonomes, anarchistes et auprès de bon nombre d'artistes, de commissaires d'exposition, de critiques d'art, constituent des manifestations du retour actuel d'un médiévalisme émancipateur. Morris et Federici ne sont pas historiens-historiennes. Il et elle utilisent le savoir historique disponible pour forger une image du Moyen-Âge qui alimente leurs pratiques artistiques, leurs combats politiques, sans ignorer les erreurs factuelles que Morris et Federici peuvent commettre dans leurs livres, faute d'une connaissance directe des sources, des archives. Nous ne croyons pas pour autant que leur vision du Moyen-Âge soit à ranger du côté de la fiction médiévaliste. Pour Federici, la philosophie féministe permet à la fois de corriger l'histoire vue par les marxistes orthodoxes qui ont exclu la donnée du genre de leur perspective et le travail des historiens qui dépolitisent l'histoire. De son côté, Morris considérait par exemple que l'histoire de la Commune de Paris telle qu'elle est transmise habituellement par les historiens reconnus, n'est que le récit de la bourgeoisie que la bourgeoisie veut entendre, et qu'il est important d'écrire des contre-histoires, moins biaisées, de cette révolution. Nous écrivons depuis ce point de vue d'historien neutre et historien de l'art. La recherche historique ne peut pas laisser le passé aux mains de celles et ceux qui le réécrivent pour servir leur vision du monde délétère, surtout quand il s'agit du Moyen-Âge. Mieux, la pratique de l'histoire peut-être émancipatrice. À l'été 2020, je passe voir Oseille chez elle à Marseille. Elle me parle de la troubadouriste Béatrix. Troubadouriste, c'est troubadour au féminin, qui écrivait ses œuvres en langue occitane vers la fin du XIIe siècle. Oseille me raconte que ses poèmes et chansons ont été traduits en français d'une façon normée. C'est-à-dire que si l'on étudie l'occitan, on se rend compte que les textes originaux de Béatrix sont bien plus fluides et libres que la traduction qui en a été faite en français. Des chercheuses en langue occitane ont découvert que les genres des personnes dans les histoires chantées par Béatrix ont été changés, normés. Les traducteurs français sont venus hétéronormer les phrases de Béatrix, attribuant des genres masculins ou féminins aux personnages qui n'avaient pas les bons dans les chansons. Oseille me propose alors de chanter les poèmes de Béatrix dans un micro et en sort cette composition, produite par Oseille. Maintenant un pont vers l'année 2018. L'artiste Anne Cavala est invitée à donner un atelier d'écriture dans ma classe des Arts Déco de Strasbourg. Je suis marquée par sa lecture de mes très jeunes textes lesbiens, ses encouragements et un site internet qu'elle me donne en référence, celui d'un certain Élodie Petit. À l'époque, je découvre une page rose fuchsia avec des dessins gothiques noirs qui dégoulinent comme les phrases délicieusement crues et chaudes sur lesquelles je tombe des nues. Pendant ce workshop, Anne Cavalla performe devant nous un passage de son recueil de poèmes « Au cœur du cœur de l'écrin ». Inspiré par le coffret reliquaire du musée d'Aubray, qui contenait le cœur d'Anne de Bretagne, écrivent Thomas Gulsen et Clovis Maillet, toujours dans un Moyen-Âge émancipateur, Cavalla, collaboratrice de longue date d'artistes visuels, reconstitue par un jeu d'associations libres le parcours de femmes ayant vécu à l'époque où la chasse aux sorcières commençait à se répandre en Europe comme un cancer. Au cours de ses dérives textuelles, elle rencontre aussi Starhawk, les filles au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc et le marteau des sorcières. Elle rapporte à sa manière le culte que les sorcières auraient rendu, selon les deux inquisiteurs, à un arbre très particulier, hybride, végétal, humain. Au cœur du cœur de l'écrin poussent, en procession les arbres à verges érigés, les arbres de sorcières, dit Kramer, les sorcières nous volent nos verges. L'imagination misogyne de Kramer et Sprenger transformait les guérisseuses et avorteuses médiévales en sorcières castratrices. Pour imaginer cet arbre de pénis coupé, ils avaient en tête deux modèles. D'une part, ce qu'on appelait couramment l'arbre aux fées, auprès duquel la communauté se réunissait pour danser et manger pendant la fête du printemps, accrocher des guirlandes aux branches ou bénir les semailles. On demanda par exemple à Jeanne d'Arc pendant son procès si elle-même souscrivait au culte d'un tel arbre dans son village de Domrémy, ce qui aurait appuyé l'accusation d'hérésie dont elle fait l'objet. On pourrait faire remonter ce culte des arbres, selon Sylvain Piron, à la plus haute antiquité et au culte de la déesse babylonienne Asherah, dont la Bible conservait une trace à travers l'arbre de la connaissance, qui causa tant de problèmes à Adam et Ève. D'autre part, en étonnant motif iconographique, l'arbre au pénis, dont on a conservé une dizaine de représentations du XIIIe au début du XVIe siècle. Ces arbres qui voyaient pousser les verges recouvrent des supports variés, fresques, coffrets, badges, manuscrits. Selon l'historien de l'art Michael Camille, l'arbre au pénis appartient à l'imaginaire médiéval de l'amour, qui était beaucoup moins prude que ce que l'on croit aujourd'hui. Une des plus intéressantes versions de l'arbre à verges figure dans les marges d'un très beau manuscrit du roman de la Rose, roman allégorique antiquisant du XIIIe siècle, peint par une enlumineresse au milieu du XIVe siècle, Jeanne de Montbaston. Cavalla a vu cette image, dans laquelle, du doigt une nonne caresse, la caresse cueillant d'un arbre les verges, érigée, caresse. À cette époque, la peinture la plus prisée était l'enluminure et florissait de nombreux ateliers laïcs. Jeanne de Montbaston n'était pas une vieille femme célibataire et rotomane, mais une professionnelle exerçant rue Notre-Dame à Paris, et vendant avec son mari, puis seule après sa mort, des manuscrits de bonne facture aux aristocrates amateurs de livres. Elle n'était pas, à son époque, la seule femme peintre. Ce n'est qu'après, au cours des XVe et XVIe siècles, que les femmes furent exclues des métiers. Néanmoins, on peut dire que Jeanne de Montbaston tenait à s'affirmer en tant qu'enlumineresse. Elle s'était auto-représentée dans une autre page du même manuscrit, ce qui est rare, en train de peindre à une table, en compagnie de son mari. Dans sa version de l'arbre au pénis, ce n'est pas une sorcière mais une nonne, comme dit Cavalla, qui coupe les fruits défendus. Jeanne cherche-t-elle à se moquer du discours misogyne qui domine le texte du roman de la Rose? Ou pensait-elle au fablio, le souhait, des vaises, le songe des verges, où l'on peut acheter des verges comme des légumes sur les étals du marché. Jeanne de Montbaston précède de peu Christine de Pizan, l'écrivaine proto-féministe, ennemie acharnée de la misogynie du roman de la Rose, laquelle énumère, parmi les nombreuses femmes de talent qui prouvent qu'elles ne sont en rien inférieures aux hommes, une autre enlumineresse, Anastèse. L'art des marges relayait la révolte des marginales.
Sauvage. Tout est fleuri, j'ai rien fait.
Pas beau ça?
Ouais.
Il y en a où c'est bien. Hein faut que je tourne quand même. Hein, je t'envoie de voir après demain. Parce qu'après, faut pas laisser monter trop. La tondeuse, elle cale.
Si c'est trop en montée ?
Ah, si c'est trop grand,
ah.
Ça va plus. Si c'est trop haut.
Oh, oui, c'est vrai.
Alors, la tondeuse, elle cale.
Si tu tombes pas, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, ça monte comme ça, puis c'est dégueulasse.
Ouais.
Mais là, ça peut encore attendre 2-3 jours. Hein.
Ah, papy, c'était quoi l'histoire que tu m'avais racontée avec les... Avec les arbres, avec les fées.
Les arbres avec les...
Les fées. Tu sais où il fallait faire
ah,
ça.
Ah, c'est le... C'est les sureaux.
Les sureaux.
C'est les sureaux, quand ils... Les sureaux. Et là, c'est les sureaux, c'est l'arbre aux fées.
Ouais.
Et quand on coupe un sureau, avant on coupait un sureau, on chantait autour, une chanson, pour faire sortir les fées de l'arbre. Il ne faut pas le brûler. Ouais, hein.
Mais jusqu'à...
C'est une légende, hein, moi.
Mais vous y croyez, non ?
Non.
Non ?
Non. J'ai jamais cru aux fées, moi. Pour les petits gamins.
Ah bon ?
Oui.
Parce qu'apparemment, au Moyen-Âge, il y avait déjà...
Ah oui, 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 au Moyen-Âge, c'est pas pareil, ils avaient une serlaine grosse comme ça.
Ah bon, tu crois ?
Ah oui. Je croyais à beaucoup de choses, comme les sorcières. Celui qui croyait aux sorcières. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 1450. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc, quoi, c'était une sorcière. Hein.
Oui, mais
ça
c'était...
fait jamais 500 ans. Hein.
Oui, mais c'était des sorcières parce qu'elles avaient des. Elles savaient soigner. Disons,
elles avaient des dons.
C'était des dons thérapeutiques.
Non, oui, en plus, oui. Il ne fallait pas dire que tu savais soigner avec les plantes, mais que tu étais pris pour une sorcière. Que tu étais cramé. La sorcière pouvait prédire de la maléfique. C'est-à-dire, tu vois, bah écoute, mais
pourquoi, bah, les pourquoi les fées, elles, c'est dans le sureau?
Bah parce que c'est comme ça. C'est comme ça.
C'est comme ça.
Parce que c'est un bel arbre, ça sent bon, c'est très joli. Comme, c'est un arbuste, c'est pas un arbre, hein. C'est un arbuste, hein.
Ouais.
Ça fait jamais grand, ça, c'est sûr. C'est un arbuste. En plus, les fleurs, on fait de la bonne tisane avec. Les fruits, on fait de la confiture. C'est un arbre magnifique. Hein. C'est ça comme ça. Mais même encore maintenant, dans les régions d'Alsace, on fait des beignets au sureau. Quand la fleur est bien épanouie, on trempe la fleur dans la pâte. Et on le retrape dans l'huile bouillante. Il y a des régions, ils ne coupent pas la fleur. Ils font bouillir de l'eau à côté, ils préparent le truc, et avec la branche, ils plongent avec la branche sans couper la fleur. Et occasionnellement, quand c'est cuit, ils coupent la fleur pour la manger.
Ça a l'air bon.
Oui, mais c'est un peu c'était des coutumes comme ça. C'est, bah, oui. Ils respectent ça, mais ils savent bien qu'on pourrait... Ça va aussi bien en coupant la fleur que la fleur.
Ouais.
C'est pour respecter
les traditions.
Les traditions. C'est vrai que le sureau, c'est un arbre magique. C'est très beau. C'est un arbre plein de vertus. Tu sais qu'avant, ils cultivaient le sureau. Ils faisaient des haies de sureau pour les feuiller pour qu'ils poussent assez droit. Et il faisait des tuteurs pour les vignes avec. Et le bois de sureau, il tient des dizaines d'années sans pourrir.
Ah ouais,
ouais.
Même
il est imputrescible.
Wow.
Tellement il est dur et serré. Et en plus, il est cru.
Ok. Ah, mais c'était pas avec du bois de sureau que tu faisais des flûtes ?
Si !
Ah.
Alors, tu fais des tuteurs, tu fais des flûtes, tu fais des pipes. Des salières, des.
Oui,
de tout. On peut faire tout un tas de choses. C'est un bois à tourner, il est tellement dur. Très dur. Pour couper un sureau, c'est très, 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 très dur. Il faut le scier, il ne faut pas le couper. T'arrives pas à le couper.
Ah, mais oui, je me souviens que tu nous avais fait des flûtes, des sifflets.
Oui.
Des sifflets avec du sureau.
Tu te rappelles que je t'avais fait des sifflets ?
Oui, 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 je me souviens.
Ah, mais ça, c'est pas du sureau.
Ça
c'est de la saule.
Ah.
La saule marceau.
D'accord.
Mais on peut le faire avec des...
Avec du sirop.
Avec du sirop, on fait la vraie flûte. Mmh. Entre deux nœuds, on coupe. Entre deux nœuds, on coupe un nœud, on extrait... Ah, parce qu'à l'intérieur, c'est creux et il y a de la moelle. Mmh. La moelle blanche. On tire la moelle, on fait un sifflet. Et on fait des trous, on fait des flûtes. C'est pour ça que le sirop est vénéré. On fait beaucoup de choses avec. Mmh. Maintenant, c'est abandonné tout ça. Il y a le plastique.
Il y a le plastique.
Le plastique, ah oui, c'est vrai. On se coupe en mal.
Il y a le plastique. Hein.
Je suis la liaison dangereuse entre les astres vénéneux, aspiré par les nébuleuses. J'ai le diable au corps où c'est Dieu, errant entre les murs de feu, d'un entre-dessous du volcan, crachant la limonade bleue, je fuis les hauts de hurlevent. La voiture d'Orphée.